France Culture.
Les nuits de France Culture.
Nul compositeur n'est plus associé à la notion de silence que l'américain John Cage. Son fameux morceau 433, dont la renommée dépasse largement le monde de la musique expérimentale, n'est pas une simple provocation ou un acte de défiance. C'est le résultat d'une expérience singulière que le compositeur fait dans une chambre anéchoïque à Harvard en 1951. Dans cette salle, où il n'y a littéralement aucun bruit, aucun écho, c'est celui de son cœur et de son système nerveux qui se manifeste à lui. Il se rend compte que le silence total est un mythe. Ce morceau est né de cette découverte. Car dans 433, si le pianiste ne touche pas à son piano, il y a tout de même du bruit. Celui des spectateurs, de la salle, des lumières, et celui provenant du corps même de celles et ceux qui assistent au concert. Ce numéro de Art, Création, Méthode de Georges Charbonnier revient à la fois sur l'œuvre de John Cage et les recherches autour du silence, avec des lectures de Christiane Tissot et Philippe Moreau. Première diffusion le 4 janvier 1974 sur France Culture.
En 1970, un certain nombre de textes de John Cage ont été réunis sous le titre « Silence ». Silence, c'est le grand mot de l'expression moderne. Et pour John Cage. Alors, demandons-nous pourquoi et essayons de trouver quelques grandes lignes de la production littéraire, de la production artistique depuis une trentaine d'années. Essayons de trouver quelques courants et rappelons-nous que dans le domaine plastique, par exemple, Klein a fait des tableaux monochromes. La limite de sa recherche, c'est une toile, une seule couleur. Hartung n'ose tout de même pas aller aussi loin. Il a fait des toiles, une couleur et un trait. Et puis, il y a aussi le peintre qui fait une toile, une couleur et un coup de rasoir. Pas n'importe où, paraît-il. Seulement voilà, peut-être que n'importe où, c'est aussi bien. La question se pose. Plaçons-nous maintenant dans le domaine littéraire. Il semble que la grande affirmation, ou tout au moins une des grandes affirmations de la production littéraire contemporaine, c'est qu'il n'y a rien à dire. Alors il n'y a rien à dire, pourquoi? Si je me tourne vers Artaud, il n'y a rien à dire parce qu'il est impossible de dire la chose que l'on veut dire. On n'en peut pas donner un équivalent avec des mots. Par conséquent, si on n'en peut pas donner d'équivalent, le problème devient d'en donner un équivalent, et en quelque sorte, le problème devient, que vais-je dire, plus qu'un combat, une attitude de force entre le langage et l'écrivain. L'écrivain, c'est celui qui contraint le langage, celui qui lui fait violence, celui qui, de force, le contraint à dire la chose. Mais encore une fois, cette chose, on ne pouvait pas la dire. Alors, il semble qu'on soit dans une situation de blocage. Pas du tout. Il y a l'attitude de Ionesco qui est une surenchère sur l'attitude d'Artaud. L'attitude de Ionesco, c'est que on ne peut pas dire du tout. Non seulement on ne peut pas dire la chose, mais on ne peut rien dire. Et il l'a expressément écrit dans une de ses pièces. Dans une de ses pièces qui est « Comment s'en débarrasser ?» qui est, comme la plupart des pièces de Ionesco, tout au moins des premières pièces de Ionesco, l'histoire d'un couple. La femme laisse l'homme seul, elle le laisse seul parce qu'elle va travailler, l'homme reste à la maison, comme dans beaucoup de pièces de Ionesco. Et quand elle revient, cet homme qui est écrivain n'a pu écrire qu'une seule réplique. Et la réplique, c'est la suivante. Le vieux dit à la vieille, je crois que ça n'ira pas tout seul. Mais lorsque le vieux dit à la vieille « je crois que ça n'ira pas tout seul », il se trouve qu'une réplique a été écrite et que le noyau linguistique de la pièce vient de s'accroître légèrement. Par conséquent, il suffira d'ajouter une autre réplique pour renforcer l'idée, pour que le tissu linguistique continue à se dérouler. Il suffira donc d'affirmer le thème pour que ce tissu linguistique s'enrichisse. Mais comment l'enrichir encore ? Mais simplement en constatant que quand on le nourrit, il s'enrichit. Si quand on le nourrit, il s'enrichit, alors il suffit de faire proliférer. S'il suffit de faire proliférer, alors faisons proliférer les accidents. Il y a deux façons de faire proliférer. Une façon qui est de faire proliférer du rien et une façon qui est de faire proliférer quelque chose. Si nous faisons proliférer du rien, voilà la création entière qui est en train de se fissurer, voilà des lézardes qui s'établissent dans le réel. Il suffit de multiplier les lézardes, il suffit de détruire l'univers et on écrit « Le roi se meurt ». Mais on peut aussi faire proliférer les choses. Et quelle est la première des choses ? L'homme. Faisons proliférer l'homme, mais faisons mieux que faire proliférer l'homme, faisons proliférer un cadavre. Faisons proliférer un seul cadavre, et loin de le reproduire, bornons-nous à accroître les dimensions du cadavre. Et voilà comment s'en débarrasser, l'histoire d'un cadavre qui prend de plus en plus de place. Là, loin de dissoudre l'espace, nous allons surcharger l'espace. Il suffisait de penser au mouvement de prolifération pour faire proliférer du rien ou pour faire proliférer du n'importe quoi. Et on fait une œuvre. Alors, est-ce que nous sommes à une situation de blocage ? Pas du tout. Il y a Beckett qui va écrire, ou qui écrit, en attendant Godot. Alors, comment faire pour écrire en attendant Godot ? Eh bien, il suffit d'attendre. Il suffit de dire qu'on attend. Il suffit de varier l'attente. Il suffit sur tous les modes, à tous les temps, de tous les points de la scène, lorsque on est en transposition spatiale, d'attendre. Et lorsqu'un acte est construit, comment pourrait-on faire ? Mais quand un acte est construit, alors nous avons une chose qui est faite. Il suffit de faire une variation sur l'acte. Donc nous construirons le premier acte en faisant des variations sur une phrase, le deuxième acte en faisant des variations sur le premier acte. Et si on arrête en attendant Godot, on est en droit de se demander si ça n'est pas pour des raisons économiques plus que pour d'autres, parce qu'un spectacle, ça dure tant de temps et que les comédiens n'ont pas l'habitude de jouer plus d'une heure et demie, par exemple. Les gens n'ont pas l'habitude d'assister à un spectacle qui dure plus d'une heure et demie, par exemple. Alors, est-ce que nous sommes dans une situation de blocage ? Est-ce que la surenchère, cette fois, est tout à fait impossible ? On peut se le demander. Seulement, quand on pose la question, c'est un homme qui pose la question. C'est un écrivain qui pose la question, qui se demande si la littérature est finie ou si la littérature n'est pas finie. Alors, partons un peu du côté des sciences. Est-ce que dans les sciences, nous observons des hommes qui disent que la science est terminée ? Oui, périodiquement. Périodiquement, un physicien ou un mathématicien fatigué dit que la mathématique est terminée. Ça a été l'illusion de Lagrange. Dit que la physique est terminée. Il y a encore deux, trois petites choses à trouver et puis c'est fini. À la vérité, il exprime simplement ses limites et dans une certaine mesure, j'avance timidement l'idée que la recherche scientifique pourrait s'analyser en une suite, non linéaire d'ailleurs, en une organisation de surenchères. Il est très facile d'arriver à un point, il est très difficile de faire l'analyse du point où on est arrivé, il est encore plus difficile d'aller plus loin. Il y a là une espèce de limite physiologique aux forces humaines. Revenons dans le domaine littéraire, où tout était achevé. Alors, est-ce que Cage peut aller plus loin ? Ben, il va plus loin dès le titre qu'il prend, Silence. Mais il faut remplir le livre. Alors, il y a plusieurs façons de remplir un livre et nous allons voir quelle est la conclusion. Il y a une première façon qui va consister à écrire un texte où il n'y aura que des questions. Est-il beau ? Est-il grand ? Est-il laid ? Est-il triste ? Et on peut continuer comme ça, en énumérant tous les adjectifs qu'on va trouver dans un dictionnaire. On n'est pas obligé de prendre le dictionnaire dans l'ordre parce que ça serait lassant. On peut le prendre au hasard, tourner les pages, relever les adjectifs. Et puis, on peut varier la question. On peut dire qu'est-ce qu'il y a de triste en lui? Qu'est-ce qu'il y a de grand en lui? Qu'est-ce qu'il y a de grand en homme? Qu'est-ce qu'il y a de noble en lui? Y avait-il quelque chose de différent en lui? Vous voyez naître toute la combinatoire des modes d'interrogation, toute la combinatoire des verbes que l'on va utiliser et toute la combinatoire de tous les adjectifs dont nous allons nous servir. De cette manière, on peut construire un texte.
Nous traversons l'espace et le temps. Nos oreilles sont en excellent état. Un son est aigu ou grave, doux ou fort. Il a un certain timbre, dure un certain temps et possède une enveloppe. Est-il aigu? Est-il grave? Est-il entre les deux? Est-il doux? Est-il fort? Y en a-t-il deux? Y en a-t-il plus de deux? Est-ce un piano? Pourquoi non? Est-ce un avion? Est-ce un bruit? Est-ce de la musique? Est-il plus doux qu'avant? Est-il supersonique? Quand s'arrêtera-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Est-il temps? Est-il très court? Très long? Entre les deux? Si j'avais quelque chose à voir, serait-ce du théâtre? Le son suffit-il? Que me faut-il de plus? Est-ce que je ne l'ai pas, que j'en ai besoin ou pas? Est-ce un son? Je répète, est-ce de la musique? La musique est-elle le mot, j'entends? Est-il un son? Si oui, la musique est-elle de la musique? Le mot musique est-il de la musique? Communique-t-il quoi que ce soit? Le faut-il? S'il est aigu? S'il est grave? S'il est entre les deux? S'il est fort? S'il est doux? Si c'est un intervalle? Qu'est-ce qu'un intervalle? Un intervalle est-il un accord? Un accord est-il un agrégat? Un agrégat est-il une constellation? Qu'est-ce qu'une constellation? Combien de sons y a-t-il au total? 1 million? 10 000? 88? Faut-il que j'en pose encore 10? Le faut-il? Pourquoi? Pourquoi le ferais-je? Est-ce que j'ai décidé d'en poser tant? Ne courrais-je pas un risque? Non? Et pourquoi? N'y aura-t-il jamais de fin? Pourquoi pas? Le silence n'existe pas. Va-t'en dans une chambre sourde et entends-y le bruit de ton système nerveux et entends-y la circulation de ton sang. Je n'ai rien à dire et c'est ce que je dis. Serait-il exagéré de poser encore 33 questions? Qui les pose? Est-ce moi? Est-ce que je ne sais pas ce que je veux? Pourquoi est-ce que je pose des questions si je ne sais pas? Ça n'est donc pas exagéré. Vrai? Dites-moi, préférez-vous Bach à Beethoven? Et pourquoi? Aimeriez-vous entendre quand il étonne de Bo Nielsen, que ce soit ou non la première audition? Quelqu'un a-t-il vu Maître Eckhart ces derniers temps? Pensez-vous que la musique sérieuse soit suffisamment sérieuse? L'accord de septième est-il déplacé dans la musique moderne? Et les quintes et les octaves? Et si un accord de septième n'était pas un accord de septième? Est-ce qu'il n'est pas un peu bête de continuer à poser des questions quand il y a tant de choses à faire qui sont vraiment urgentes? Mais nous en sommes déjà à la moitié, n'est-ce pas? On fait un effort? Nous sommes d'accord que le domaine de la musique manque un peu de vie? Ou ne sommes-nous pas d'accord? Sur quoi? Les communications? Supposons que j'ai deux sons. Y a-t-il un rapport entre eux? Si quelqu'un est plus près de l'un que de l'autre, a-t-il un rapport étroit avec le premier? Et les sons qui sont trop loin pour que nous puissions les entendre? Est-il vrai que les sons soient seulement des vibrations? Est-il vrai qu'ils font partie d'une vaste gamme de vibrations qui comprend les ondes radio, la lumière, les rayons cosmiques? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas dit plus tôt? Est-ce que ça ne frappe pas l'imagination? Voulez-vous que nous rendions grâce à Dieu, source de toutes les bénédictions? Le son est-il une bénédiction? Je répète, un son est-il une bénédiction? Je répète, aimeriez-vous entendre quand il t'étonne de Bo Nielsen que ce soit ou non la première audition? Les Belges m'ont interrogé sur l'avant-garde en Amérique et voici ce que je leur ai dit.
Il n'y a pas la plus petite raison pour que ces questions s'arrêtent. Or, ce qui est tout à fait remarquable, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ces questions sont toutes inutiles, toutes avant le problème, toutes après le problème, et toutes absolument ne concernent que le problème. Alors, essayons de voir si la conclusion ne nous permettrait pas pour le moment d'aller plus loin. Essayons de voir si simplement analyser la situation, ça ne serait pas un pas de plus. Au fond, ce que l'on a vu avec la succession Artaud, Ionesco, Beckett, et bien d'autres noms pourraient être cités d'ailleurs, c'est quelque chose comme il est impossible d'organiser, il est impossible de faire. Et on joue sur ce thème, il est impossible de faire, il est impossible d'organiser. Et quand on fait proliférer, quand on diminue, quand on augmente, quand on multiplie les lézardes, quand on surpeuple l'espace, à la vérité, on a rusé pour faire. Qu'ai-je fait littéralement table rase de toutes ces astuces, et Cage va dire, lui, le contraire de ce qui a été dit avant lui. C'est-à-dire, il est impossible de ne pas faire. Il est impossible de ne pas organiser. Il suffit d'organiser pour qu'il y ait un texte, organisé dans n'importe quoi. Mais ça n'est même pas suffisant. Faites n'importe quoi, et par définition, ce sera organisé à une condition, une seule. Il suffit de répéter, avec ça et là, une variation, la plus légère possible.
Me voici, et il n'y a rien à dire. S'il se trouve parmi vous ceux qui veulent arriver quelque part, qu'ils s'en aillent quand ils voudront, ce qu'il nous faut, c'est le silence. Mais ce qu'il faut, un silence, c'est que je continue de parler. Pousser un peu n'importe quelle pensée, elle tombera facilement, mais le pousseur et le poussé produisent ce divertissement qu'on appelle discussion. Voulez-vous qu'on discute tout à l'heure? Ou bien nous pourrions se décider simplement de ne pas discuter, comme vous voudrez, mais maintenant il y a des silences, et les mots fonds aident à faire les silences. Je n'ai rien à dire, et c'est ce que je dis, et c'est de la poésie telle qu'il me la faut. Cet espace de temps est organisé, nous n'avons pas à craindre ces silences, nous pouvons les aimer. Cette causerie est une causerie composée, car je la fais comme je fais un morceau de musique. C'est comme un verre de lait, il nous faut le verre et il nous faut le lait, ou encore c'est comme un verre vide dans lequel à tout moment on peut verser quelque chose, n'importe quoi. Au cours de la causerie, qui sait, une idée surviendra peut-être, je n'en ai aucune idée dans un sens ou dans un autre, si oui, laissez-la. Tenez-la pour une chose vue un instant, comme on voit d'une portière en voyage. Si c'est à travers le Kansas, alors bien sûr, le Kansas, l'Arizona est plus intéressant, presque trop intéressant surtout pour un New-Yorkais, s'intéresse en dépit de lui-même à tout, il sait qu'il lui faut maintenant le Kansas qui est en lui. Le Kansas ne ressemble à rien sur la terre et pour un New-Yorkais c'est très rafraîchissant. C'est comme un verre vide, rien que du blé, est-ce du maïs, n'importe. Kansas a ceci de bon, à tout instant on peut le quitter et quand on veut on peut y retourner. Ou bien vous pouvez le quitter pour toujours et ne jamais y retourner car on ne possède rien. Notre poésie aujourd'hui c'est de réaliser qu'on ne possède rien. Toute chose est donc une joie puisqu'on ne la possède pas et que donc on n'a pas à craindre de la perdre, on n'a pas à détruire le passé. Il est parti. À tout moment il pourrait reparaître et sembler être et être le présent. Serait-ce une répétition? Seulement si l'on croyait le posséder, mais comme ce n'est pas le cas, il est libre et nous aussi. Presque tout le monde est au courant de l'avenir et de ses incertitudes. Ce que j'appelle poésie est souvent appelé contenu. Je l'ai moi-même appelé forme. C'est la continuité d'un morceau de musique. La continuité aujourd'hui, quand elle est nécessaire, est une preuve de désintéressement. Elle est de fait la preuve que notre joie est de ne rien posséder. Chaque moment présente ce qui arrive. Quelle différence entre ce sens de la forme et celui qui est lié à la mémoire, thème et thème secondaire, leur lutte, leur développement, le point culminant, la récapitulation, qui est la conviction qu'on peut posséder sa propre maison, mais en réalité, à la différence de l'escargot, nous transportons nos maisons au-dedans de nous, ce qui nous permet de voler ou de rester, de jouir des deux. Mais prenez garde à ce qui est beau à couper le souffle, car à tout moment, le téléphone peut sonner ou l'avion descendre sur un terrain vague, un morceau de ficelle ou un coucher de soleil ne possédant ni l'un ni l'autre, chacun agit et la continuité se produit. Rien de plus que rien ne peut être dit. L'entendre ou le faire en musique n'est pas différent, plus simple simplement, que de vivre de cette façon, plus simple veux-je dire pour moi, parce qu'il se trouve que j'écris de la musique. Que la musique soit simple à faire vient de la disposition où l'on est d'accepter les limites de la structure. La structure est simple parce qu'elle peut être pensée, raisonnée, mesurée. C'est une discipline qui, une fois acceptée à son tour, accepte tout, même ces rares moments d'extase qui, comme les morceaux de sucre, dressent les chevaux, nous dressent à faire ce que nous faisons. Comment pourrais-je mieux dire ce qu'est la structure qu'en parlant simplement de ceci, de cette causerie qui est contenue dans un espace de temps d'une durée approximative de 40 minutes. Ces 40 minutes ont été divisées en 5 grandes parties, chaque unité est divisée de même, la subdivision fondée sur la racine carrée est la seule subdivision possible qui permette cette structure rythmique micro-macrocosmique que je trouve si acceptable et acceptante, Comme vous voyez, je peux dire n'importe quoi, peu importe ce que je dis ou même comment je le dis. À ce moment précis, nous traversons la quatrième partie d'une unité qui est la seconde partie de la deuxième grande partie de cette causerie. C'est un peu comme de traverser le Kansas. Ceci donc est la fin de cette seconde unité. Voici maintenant la troisième unité de la seconde partie et maintenant la seconde partie de cette troisième unité et sa troisième partie. Et sa quatrième partie, qui entre parenthèses est de la même longueur que la troisième partie, et la cinquième et dernière partie. Vous venez d'éprouver la structure de cette causerie d'un point de vue microcosmique. D'un point de vue macrocosmique, nous en sommes exactement au milieu de la seconde grande partie. La première partie était une discussion à bâton rompu sur rien, la forme et la continuité quand elle est du type qu'il nous faut aujourd'hui. Cette seconde partie porte sur la structure, comme elle est simple, ce qu'elle est et pourquoi nous devrions être disposés à accepter ses limites. La plupart des discours sont pleins d'idées, celui-ci n'a pas à en avoir, mais à tout moment, quelque idée peut survenir et nous pourrons en profiter. La structure sans la vie est morte, mais la vie, structure, est invisible, la pure vie s'exprime dans et par la structure. Chaque moment est absolu, vivant et signifiant, des merles s'envolent d'un champ en produisant sons incomparablement délicieux, je les ai entendus parce que j'avais accepté les limites d'une conférence sur les arts dans un collège de jeunes filles en Virginie, lesquelles limites m'ont permis, tout à fait par accident, d'entendre les merles qui s'envolaient et survolaient. Il y avait un bulletin mondain et les heures du petit déjeuner. Mais un jour, j'ai vu un cardinal, et le même jour, j'ai entendu un pivert. J'ai aussi rencontré la plus jeune directrice de collège d'Amérique, toutefois elle a démissionné, et on dit qu'elle va se lancer dans la politique. Quel silence, pourquoi pas ? J'ai eu aussi le plaisir d'entendre un éminent critique musical s'écrier qu'il espérait vivre assez longtemps pour voir la fin de cette rage pour Bach. Une élève m'a dit un jour « Je comprends ce que vous dites de Beethoven et je pense que je suis d'accord, mais j'ai une très grave question à vous poser. Que pensez-vous de Bach ?» Nous voici maintenant à la fin de la partie sur la structure. Toutefois, l'idée me vient de parler davantage de la structure. Plus exactement ceci, nous en sommes au commencement de la troisième partie et cette partie n'est pas la partie consacrée à la structure, c'est la partie sur les matériaux. Mais je parle toujours de la structure. Il doit en découler clairement que la structure est sans objet et que, comme nous l'avons vu, la forme est également sans objet. Il est clair que nous commençons à n'arriver nulle part, à moins qu'une autre idée ne se présente à ce sujet. C'est tout ce que j'ai à dire de la structure. Et maintenant, le matériau, est-il intéressant ? Oui et non, mais une chose est certaine, si quelqu'un fait quelque chose qui doit n'être rien, ce quelqu'un doit posséder amour et patience pour le matériau qu'il choisit, faute de quoi il attire l'attention sur le matériau qui est précisément quelque chose, alors que ce qui se faisait n'était rien, ou bien il attire l'attention sur lui-même alors que rien n'est anonyme. La manière de traiter les matériaux est au niveau du sens, ce que la structure en tant que discipline est au niveau rationnel, un moyen de n'éprouver rien. Je me rappelle avoir aimé les sons avant même d'avoir eu des leçons de musique, et c'est ainsi que nous faisons nos vies, avec ce que nous aimons. L'an dernier, quand j'ai parlé ici, je n'ai pas parlé longtemps, c'est parce que je parlais de quelque chose, mais cette année, je ne parle de rien et naturellement, je continuerai de parler pendant longtemps. L'autre jour, une élève m'a dit, après avoir essayé de composer une mélodie en n'utilisant que 3 tons, « Je me suis senti à l'étroit ». Si elle s'était intéressée aux 3 tons, ses matériaux, elle ne se serait pas sentie limitée. Et comme les matériaux sont insensibles, il n'y aurait aucune limite. La limite étant dans sa tête, alors que sa place était dans les matériaux, elle est devenue quelque chose en n'étant pas rien. Elle aurait été rien en étant quelque chose. Devrait-on utiliser les matériaux caractéristiques de son époque ? Voilà une question qui devrait nous mener quelque part. C'est une question intellectuelle, j'y répondrai lentement, autobiographiquement. Je me rappelle enfant avoir aimé tous les sons, même ceux qui n'étaient pas préparés. Je les aimais surtout quand il y en avait un à la fois. Un exercice de doigté pour une seule main était plein de beauté. Plus tard, j'ai aimé progressivement tous les intervalles. Je me rends compte après coup que j'ai commencé à aimer l'octave.
C'était « Silence », un numéro de « Art, création, méthode » de Jean Charbonnier, avec des lectures de Christiane Tissot et Philippe Moreau. Première diffusion le 4 janvier 1974 sur France Culture.